Les éco-ateliers. Des rencontres inspirantes avec les acteurs de la transition écologique et solidaire. Proposées par Audrey. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Marc Alban, qui est maraîcher sur la commune de Plat. Marc Alban, bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ?
Alors bonjour, je suis Marc Alban, Rhinot du Laurier, je suis à Plat en tant que maraîcher depuis 2017 en agriculture biologique. Donc je suis fils d'agriculteur, mon frère est agriculteur, donc en Isère à Prieux. Et c'était une agriculture, on va dire, conventionnelle, avec de la grande culture, de l'élevage, de l'arboriculture, donc des noyers principalement. Donc c'était une ferme un petit peu à l'ancienne où on fait de la polyculture élevage, mais c'était quand même sous un modèle, on va dire, productiviste et pas en bio. Et donc moi, j'avais envie d'une agriculture plus durable, plus éco-responsable. Donc je me suis intéressé à l'agroécologie.
Eh bien, l'agroécologie, parlons-en. Comment tu pourrais définir ça ?
Pour moi, l'agroécologie, c'est la branche agricole de la permaculture. Donc l'idée, c'est de concevoir un système agricole qui va être durable et résilient. Donc en gros, pour ça, on s'inspire, comme la permaculture le fait, du vivant. On considère que la nature, de par ses millions et des millions d'années d'évolution, elle est efficace et adaptée. Donc on essaye de copier les modèles qu'il y a dans la nature et de les appliquer à l'agriculture. Les principaux modèles qu'on peut copier dans la nature, c'est le non-travail du sol, parce que quand on observe la nature, il n'y a rien ni personne qui travaille véritablement le sol, à part bien entendu les vers de terre. Mais il n'y a pas de retournement du sol, il n'y a pas de labour, etc. Il n'y a pas non plus d'apport d'engrais, ni d'utilisation de produits de synthèse, des pesticides, des insecticides, etc. Donc en fait, on va essayer d'aller vers ça.
Tu as évoqué la permaculture, c'est un terme qu'on entend beaucoup ces dernières années. Alors plutôt la permaculture dans le sens du jardin. Est-ce que tu peux parler de la permaculture au sens large ?
Donc j'ai un petit peu déjà défini. La permaculture, c'est une méthode systémique. Donc on va s'inspirer du vivant, on va copier les modèles du vivant pour essayer de créer un système humain, c'est-à-dire ça peut être beaucoup de choses. Hein. Par exemple, ça peut être de l'agriculture. On peut aussi le voir dans le modèle de la santé, on peut aussi en parler dans le domaine de l'éducation, de l'économie, des finances. On réfléchit à la durabilité dans les outils, les technologies, l'enseignement, la culture, et aussi le soin apporté à la nature, à l'environnement. Donc l'idée de la permaculture, c'est ça, hein, c'est de concevoir des systèmes humains qui sont efficaces, durables, écologiques et résilients.
Alors, comme je connais un peu mon sujet, il y a trois piliers à la permaculture, si tu peux les énoncer.
Donc, les piliers dont tu parles, c'est ce qu'on appelle l'éthique. Donc, c'est prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager équitablement. On voit aussi des fois redistribuer les surplus. Donc, prendre soin de l'humain, ça commence par prendre soin de soi, jusqu'à prendre soin des gens qui sont autour de nous, les gens avec qui on travaille, idéalement sa commune, comme toi tu peux le faire. Son département et dans un idéal, son pays, sa région mondiale et pourquoi pas le monde. Après, prendre soin de la terre, ça commence par ce que je fais moi et que j'adore faire, c'est prendre soin de son petit lopin de terre, prendre soin des sols, les êtres vivants qu'il y a dans le sol, jusqu'à prendre soin de la planète Terre dans son ensemble. Et partager équitablement, en fait, l'idée, c'est de passer de consommateur, on dit voilà, un consommateur conscient, à producteur conscient, c'est-à-dire que je produis pour qu'il y ait de l'abondance, pour qu'il y en ait tellement que je puisse partager cette abondance qui est saine avec les autres.
Du coup, tu travailles en agroécologie. Quelle est la différence avec l'agriculture conventionnelle ?
Alors la principale différence, c'est qu'on ne va pas travailler les sols. Quand on arrête de travailler les sols, par exemple, ça va augmenter la biodiversité qu'il y a à l'intérieur des sols. Ça va aussi augmenter la capacité du sol à stocker de l'eau jusqu'à deux fois plus. Ça va augmenter aussi la résilience face au réchauffement climatique, parce qu'un sol qui contient plus d'eau et qui est moins travaillé ou pas travaillé, il va se réchauffer moins facilement, donc il va sécher moins facilement. Donc on est beaucoup plus résilient face au réchauffement climatique, ça c'est vraiment un point important. On va aussi baisser l'utilisation des pesticides, parce qu'en fait, il y a moins de maladies, parce que quand on va travailler le sol, on va favoriser en fait les bactéries et les virus qui sont pathogènes, et les champignons aussi qui sont pathogènes pour les plantes, parce qu'en fait on va homogénéiser le sol, voilà, on l'homogénéise, il est partout identique, donc on a le même pH partout, alors qu'un sol en bonne santé, c'est comme un système digestif en bonne santé, il est hétérogène. Donc voilà. Il y a aussi le fait que les sols, donc ça c'est un sujet d'actualité, pardon, ils vont mieux stocker l'eau, donc il y a moins d'inondations et moins d'érosion des sols. Donc on a moins de problèmes d'inondations, c'est quand même important, et on ne perd pas le capital du sol. Donc le sol ne part pas dans les cours d'eau. Quand on voit des torrents de boue, c'est pas normal, c'est le sol qui part. Il y a aussi un truc qu'on dit pas assez souvent, c'est que quand on arrête de travailler les sols, on va favoriser une agriculture biologique, parce qu'au bout de 3 ans où on a arrêté de travailler les sols, il y a jusqu'à 80% des mauvaises herbes, donc on dit adventices, qui ne vont pas pousser, parce qu'en fait c'est le fait de remuer le sol qui fait que les graines germent. Donc si on arrête de remuer le sol, on fait germer moins de graines, donc c'est plus facile de désherber, donc ça favorise une agriculture biologique, parce qu'en fait le principal frein à l'agriculture biologique, c'est les mauvaises herbes et le fameux dilemme du glyphosate dont on a pas mal entendu parler.
Tu te définis comme maraîcher sur sol vivant. Alors est-ce que c'est juste un titre? Est-ce que c'est un réseau? Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Donc c'est une association, Maraîchage Sol Vivant. Pour l'agroécologie, il y a aussi l'autre association dans laquelle je suis qui s'appelle Pour une agriculture du vivant, donc voilà, qui prône l'agroécologie au sens large. Donc le maraîchage sol vivant, c'est un réseau aussi, donc il y a des rencontres nationales, on essaye de collecter des informations, donc par exemple on demande à des agriculteurs du groupe de faire des tests, on essaie de faire en sorte que les tests soient les plus scientifiques possibles, donc voilà, randomisés, avec des comparaisons, et après on fait remonter ces tests-là aux chercheurs qui sont dans l'association aussi, pour pouvoir améliorer les techniques et puis collecter des données. Et donc maraîchage sol vivant, c'est le principe, c'est de se dire, on a compris que c'était intéressant de stocker de la matière organique dans les sols et d'arrêter de travailler les sols, donc on va faire en sorte d'apporter le plus possible de matière organique pour stocker le carbone dans les sols. Donc ça me permet de vous parler de l'initiative 4 pour 1000 qui a été créée pendant la COP21 en 2015. Et cette initiative 4 pour 1000, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on augmente de 0,4% le taux de matière organique dans les sols tous les ans, ce qui est vraiment tout à fait possible pendant longtemps, parce que les sols, il y a 50 ans, ils avaient à peu près 5% de matière organique en France, et maintenant on est plus autour de 2%. Et pour vous donner une idée, moi quand j'ai récupéré le sol, on était à peu près à 2,5% de matière organique, et aujourd'hui je suis à 8%, voilà, en 3 ans et demi. Donc on peut faire même beaucoup plus. Mais si on augmente seulement de 0,4% tous les ans, ça suffirait pour absorber quasiment la totalité des émissions de CO2 qu'on émet. Donc c'est un des principaux outils qu'on a contre le réchauffement climatique. Donc vous pouvez retrouver ça, si vous ne me faites pas confiance, dans le dernier rapport du GIEC, où il préconise justement l'utilisation de l'agroécologie pour lutter contre le réchauffement climatique. Parce que le meilleur outil qu'on a à disposition pour absorber le CO2, la meilleure machine qui existe, c'est la nature qui l'a créée et c'est la plante.
Donc en fait, là je t'écoute et je me dis, on a les solutions. Elles sont juste là, mais alors pourquoi on tarde à les mettre en place? Tout à l'heure, tu me disais que de plus en plus de personnes qui s'installent sont sur ces techniques-là. Est-ce qu'en termes de proportion, tu aurais un chiffre à donner ou
Donc, pourquoi on ne met pas en place? Parce qu'on le sait tous, il y a des puissances économiques qui sont en jeu, et surtout dans l'agriculture et dans l'agro-industrie en général, donc l'industrie agroalimentaire aussi. Et il y a beaucoup de puissances économiques qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent. Mais il faut quand même savoir que même elles ont intérêt à ce que ça change. Et elles sont en train de comprendre qu'elles ont intérêt à ce que ça change. Parce qu'en fait, ça permet de durabiliser l'agriculture, de la rendre résiliente face aux changements qui sont en train de s'opérer. Donc même de très grosses fermes, j'ai un exemple dans le sud-ouest d'un monsieur qui a plusieurs centaines d'hectares en agroécologie. Et en fait, même dans les grosses structures, par exemple, je pense à la structure de mon frère aussi, qui fait de la grande culture en Isère, ils sont en train d'arrêter de travailler les sols et de, si possible, utiliser le moins possible de pesticides, etc. Donc on est quand même de plus en plus dans une démarche agroécologique. D'ailleurs, dans la prochaine PAC, qui aurait dû avoir lieu cette année, mais qui aura sûrement lieu l'année prochaine, qui est reportée à cause du coronavirus, c'est souvent, sûrement dans les prochaines orientations et dans les prochains financements pour soutenir ce changement-là. Donc en fait, c'est déjà en train de s'opérer, mais il y a aussi, en fait, c'est surtout ça, alors si je vous dis pas de bêtises, voilà, c'est ça, dans 10 ans, il y a la moitié des agriculteurs qui seront partis à la retraite. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Donc, souvent, quand on a 55 ans et qu'on a fait des méthodes toute sa vie, on a du mal à changer. Et c'est les nouvelles générations d'agriculteurs qui sont en train de changer ça. Donc, là, j'ai pas beaucoup de chiffres en tête, mais je sais qu'en maraîchage, par exemple, quasiment toutes les installations en maraîchage, maintenant, elles se font en bio, déjà. De plus en plus, pareil pour la grande culture, en vigne aussi, de plus en plus le cas. L'arboriculture, ça dépend, parce que, par exemple, l'abricotier, c'est compliqué en bio. Mais pour tout ce qui est pommes, poires, etc., les fruits à pépins, il y en a de plus en plus. Donc on voit vraiment une augmentation hein, de l'agriculture bio et de l'agroécologie. Ça se voit pas encore beaucoup, parce que c'est les jeunes, comme je vous dis, mais d'ici 10 ans, on va observer tous un très gros changement. Et donc c'est en train.
En fait, les personnes déjà installées se retrouvent quelque part coincées dans un système et ne sont pas, on ne leur tend pas forcément la main pour les aider à changer. Tu disais que quand tu es arrivé à plat, le terrain n'était pas top pour y cultiver quelque chose. Quelles sont les premières choses que tu as mis en place pour le travailler, ce sol ?
Donc, quand je suis arrivé en Ardèche, à plat, c'est un lieu où, historiquement, du maraîchage, il n'y en a pas beaucoup. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que les sols ils sont pauvres. Donc voilà, c'est plutôt élevage de petits animaux pour la subsistance. En zone de montagne où les sols sont pauvres, c'est plutôt ça. Et puis quand ils sont pas pauvres, c'est pareil, subsistance sur l'animal, mais des plus gros animaux comme la vache. Donc le sol, quand il est pauvre, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et c'est ce qu'on préconise hein, dans notre réseau et dans l'agroécologie en général, c'est d'essayer d'atteindre les 5% de taux de matière organique dans les sols, parce qu'on sait en gros qu'à partir de 5%, on dit ça pousse tout seul. Voilà. En fait, c'est qu'il y a suffisamment à manger pour la vie du sol, pour les vers de terre, tout ça, pour que bah, vos plantes elles poussent toutes seules sans apport d'engrais. Donc en fait, on va essayer d'augmenter ce taux de matière organique, et on a développé une méthode qui marche très bien, c'est d'amener massivement de la matière organique, comme du broyat, de bois, de jeunes branches, ou de compost, mais l'idéal c'est d'avoir comme de la matière organique fraîche. Donc ça en maraîchage c'est facile à faire parce qu'on a des petites surfaces, donc on peut se permettre d'apporter, on va dire, 10 kg de matière organique par mètre carré pendant 2-3 ans, donc ça fait beaucoup. Mais en grande culture, vous imaginez que c'est pas possible, parce que si on a 200 hectares, on peut pas se permettre de faire ça, parce qu'il en faudrait trop. Donc là, on développe des techniques de couvert végétal et d'engrais vert. Donc en fait, on fait pousser des plantes les plus grosses possibles, on essaye de faire en sorte qu'elles soient les plus belles possibles, pour pouvoir par la suite les laisser sur place et les donner à manger au sol, pour qu'ils bah, ils s'enrichissent, et du coup, par ce fait, améliorer le taux de matière organique du sol. Donc là, moi, c'est un peu les deux outils que j'ai fait, hein, apporter de la matière organique et utiliser des engrais verts. Et au tout début, vu que c'était un endroit où le sol était très compacté, je l'ai travaillé la première fois pour le décompacter, parce que je voulais aller vite, je voulais vite produire. Mais si on veut vraiment respecter la vie du sol et surtout les vers de terre, parce qu'on sait qu'un labour ça tue 98% des vers de terre, et ben on va faire en sorte de travailler le sol le moins possible. Et on peut même apporter de la matière organique et pas trop travailler le sol. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire d'un point de vue technique. Mais voilà, en gros on apporte de la matière organique et on utilise des engrais verts qui vont aussi travailler, hein, les racines des engrais verts vont travailler le sol, le décompacter. Et au bout de 2-3 ans, on a un sol de très grande qualité et qui fait que vos plantes vont pousser toutes seules sans avoir besoin d'amener des engrais azotés.
Alors, on sait que, enfin, du coup, tu nous expliques que c'est plus facile de travailler sur un sol qui est vivant, mais, alors, question peut-être bête, mais est-ce qu'on peut cultiver sur un sol mort ?
Alors, en gros, un sol mort, d'un point de vue agronomique, ça n'existe pas. Un sol vraiment mort, c'est le désert du Sahara. Mais on peut considérer que les sols qui sont à moins de 2% de matière organique, hein, comme les sols qu'il y a dans les vignes par exemple, ou dans des sols très très travaillés de manière, on va dire, pas du tout respectueuse de l'agronomie des sols, en grande culture par exemple, on peut considérer qu'ils sont pas loin d'être morts. Donc pourquoi on dit qu'ils sont morts? Bah parce qu'il y a une énorme perte de la biodiversité, voilà, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de petits insectes, on ne trouve plus de champignons, etc. Donc en fait, la vie est partie, donc c'est pour ça qu'on dit sol mort. Mais ce qu'il y a de fantastique, c'est que le sol, il est très résilient, il n'est jamais entièrement mort, voilà, à part le désert du Sahara, comme je vous le disais. Mais on peut effectivement cultiver, et c'est ce que en fait on fait en agriculture industrielle, hein, conventionnelle, en apportant des engrais qui viennent de l'extérieur, voilà, des engrais azotés, souvent chimiques, dérivés du pétrole, pour en fait se substituer à la nature en apportant, voilà, tous les minéraux, les oligo-éléments, etc., que la plante a besoin pour pousser, parce qu'en fait il n'y en a plus assez dans le sol et la vie du sol n'est plus capable de transformer la matière organique en ces minéraux et oligo-éléments pour vos plantes. Donc en fait, on peut se substituer à la nature, mais en fait, en faisant ça, on augmente la dégradation du sol, parce qu'en travaillant le sol, on va dégrader la matière organique. Donc plus on travaille le sol, plus on dégrade la matière organique. Donc en fait, c'est un cercle vicieux dans lequel l'agriculture est tombée, hein, depuis ce qu'on appelle la révolution verte, donc après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est possible, mais c'est juste de pire en pire. Donc en fait, les rendements au début, ils augmentent, parce qu'on a encore un stock de matière organique qui se dégrade au fur et à mesure. Donc en plus, on apporte des engrais, donc ça pousse bien. Mais plus le stock de matière organique va s'abîmer, moins il y aura de biodiversité dans les sols, moins ça va pousser, et plus on va avoir de problèmes, donc plus on va être obligé de traiter, et ainsi de suite. Donc ça a un cercle vicieux. Et c'est un peu le cercle vicieux qu'il y a actuellement. Et c'est pour ça que les agriculteurs, ben, ils se disent, tiens, il faut peut-être qu'on change, et c'est pour ça qu'ils changent.
Alors moi, j'ai un jardin, par exemple. Comment, très simplement, sans faire des analyses en laboratoire, comment je peux voir si mon sol est vivant ou pas?
Donc on a deux tests pour savoir si un sol est vivant. Et ben, le premier qui est assez simple, c'est de regarder ce qui pousse quand vous faites rien. Parce que en fait, le jardin, quand on ne sait pas trop faire, on a des plantes, ça pousse beaucoup dans notre jardin. Voilà, par exemple, ça pousse, l'herbe elle pousse à 1,50 m de haut. Et puis nous, quand on essaye de faire quelque chose, ça ne pousse pas. Donc c'est parce qu'en fait, on ne respecte pas les règles agronomiques. Donc en fait, ce qui est simple, c'est que plus ça va être fertile naturellement, plus ça va pousser haut. Donc si vous avez une très grosse prairie qui pousse à 1,50 m de haut, c'est que c'est fertile. Voilà, c'est vraiment facile à voir. Si vous avez un gazon grillé qui est à 20 cm de haut, c'est que de 1, ça manque sûrement d'eau, et de 2, ben, c'est pas très fertile. Donc ça, c'est un bon indicateur, voir à quelle hauteur poussent les plantes toutes seules. Et il y a un deuxième test qu'on peut faire, c'est aussi voir le nombre de vers de terre qu'il y a. Donc ça, on peut le voir bah, en cette saison, là, en saison un peu fin de l'hiver, début du printemps, on peut voir les cuticules, hein, les crottes des vers de terre à la surface du sol, et s'il y en a beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de vers de terre, donc on peut se dire, tiens, c'est assez vivant. Après, il y a un autre moyen de savoir si votre sol est vivant, c'est savoir s'il est, meuble, souple. Le meilleur exemple, c'est quand vous allez en forêt, on a l'impression de s'enfoncer et dans le sol de la forêt, ça rebondit. Ben ça, c'est parce qu'il est vivant. Et dans un sol qui est très abîmé, ben, c'est très dur et très sec. Donc l'objectif, c'est d'avoir un sol qui va être le plus rebondi, le plus souple possible, et aussi le plus riche possible en matière organique, donc le plus noir possible. Voilà. Donc ça, c'est un bon indicateur. Et il y a aussi l'indicateur de voir s'il y a des champignons qui poussent, s'il y a des petits insectes qu'on ne voyait pas avant, ce genre de choses. Et pour finir, ben, on utilise souvent ça, hein, c'est un bon moyen, c'est ce qu'on appelle les plantes bio-indicatrices. Donc en fait, toutes les plantes sont bio-indicatrices, parce qu'une plante, elle pousse à un endroit pour une raison, elle pousse à cet endroit parce qu'elle aime les conditions qui sont réunies. Donc si on connaît les plantes, on peut savoir qu'est-ce qu'elles aiment comme conditions pour pousser, donc on peut savoir si les conditions qui permettent qu'elles poussent sont bonnes ou pas, entre guillemets, donc on peut savoir si le sol est fertile ou pas. Voilà. Donc un bon exemple, si vous avez le mouron des maraîchers, si vous avez des orties, ce genre de choses, c'est que le sol est plutôt fertile. Et si vous avez du chiendent, c'est que plutôt le sol il a tendance à sécher et qu'il a tendance à se faire éroder. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la nature a créé le chiendent. Le chiendent, c'est une plante qui va retenir le sol qui est en train de s'éroder. Donc utiliser les plantes bio-indicatrices, donc il faut connaître les plantes un petit peu, mais il n'y a pas besoin d'en connaître beaucoup pour comprendre. Ça permet aussi de faire une analyse du sol, simple. Et si on a envie de faire une analyse de sol plus poussée, on peut prendre un petit échantillon et il y a des petits laboratoires qui permettent d'échantillonner votre sol. Et ça ne coûte pas très cher. Entre 50 et 100 euros, vous avez déjà une bonne analyse.
Du coup, on en revient en fait à un des principes de la permaculture que j'adore, c'est l'observation. Voilà, prendre le temps de regarder, de passer du temps dans son jardin, de regarder la vie qui s'y développe sans que vous ne fassiez rien. Les petites bêtes, les petits oiseaux, voilà, tout ça, tout ça. Et en plus, c'est relaxant et ça vaut toutes les méditations du monde. Donc, en tant que maraîcher, en principe, tu cultives des légumes. Et ces légumes, tu les vends. Où est-ce qu'on peut les retrouver ?
Eh oui, sans surprise, je cultive des légumes. Donc, des légumes en agriculture biologique, hein, certifiés par EcoCert. Donc, vous pouvez trouver mes légumes. Je vends des paniers de légumes, hein, sur Tournon et Plat, Tournon-sur-Rhône. Donc, pour ça, il faut me contacter. Donc, vous pouvez trouver mon entreprise sur les réseaux, hein, Facebook et Instagram. Donc, ça s'appelle Les Jardins de Simondon. Donc, Simondon, c'est comme Simon et D-O-N à la fin, tout attaché. Donc voilà, et vous passez par là pour m'envoyer un message et je vous dirai après comment ça fonctionne pour les paniers de légumes, sachant que c'est sans engagement, voilà, c'est à la semaine. Donc en gros, je dis les légumes disponibles et vous pouvez les commander. Sinon, vous pouvez trouver les légumes en saison à la Halle Tournonnaise Bio, donc une épicerie indépendante qu'il y a dans la Grande Rue à Tournon. Et voilà, et des fois aussi à Biocop à Tournon, mais c'est un peu plus rare.
J'ai ouï dire que tu proposais un stage de permaculture. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Donc c'est un stage de 2 jours, c'est à prix libre, c'est une initiation à la permaculture, donc c'est pour tout public. Et l'idée, c'est qu'en 2 jours, avec mon collègue Aurélien, on essaye de vous transmettre les bases de la permaculture. Donc on va aborder tous les aspects de la permaculture, on va la définir, on va parler un petit peu d'agroécologie, on va parler un petit peu de maraîchage sol vivant. Et on va aussi parler d'habitat écologique, de culture, de santé, de bien-être, etc. Donc on essaie d'aborder tous les aspects. Et après, on essaye aussi de vous apprendre à concevoir des systèmes qui sont permaculturels. Et par la suite, mettre en place des choses dans vos vies, vous donner un peu des billes pour mettre la permaculture en place dans votre vie.
Alors si le sujet vous intéresse, je vous la conseille puisque ce stage, je l'ai fait. C'est vraiment très intéressant et c'est 2 jours, c'est toujours 2 jours, hein, c'est ça ? 2 jours très enrichissants et on rencontre en plus des super personnes. Est-ce qu'il y a des dates de Calais là à venir ou pas ?
Donc la prochaine sera le 27 et le 28 mars. On essaye d'en faire au moins une par mois. Donc pareil, il faut nous contacter, hein, via Facebook ou Instagram, on vous répondra. Et voilà, et effectivement la formation elle est à prix libre, donc c'est accessible pour tout le monde, tout âge, tout public. Donc n'hésitez pas à venir, on vous accueillera avec grand plaisir. L'année dernière, en 2020, on a accueilli 150 personnes. Donc vous pouvez retrouver la vie des personnes qui ont participé à la formation sur Facebook.
Quels sont tes projets pour l'avenir ?
Donc j'ai beaucoup de projets pour l'avenir. L'idée, c'est d'étendre la permaculture et l'agroécologie, faire en sorte qu'elle soit connue. Donc grâce à toi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai aussi le projet d'agrandir ma ferme, pour avoir un impact plus grand et produire plus de nourriture de qualité. Donc actuellement, je suis en train de rechercher un terrain à louer ou à acheter plus grand. Donc s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui serait d'accord pour me louer ou me vendre 1 hectare avec de l'eau sur place, on va dire à 30 km autour de Tournon, n'hésitez pas à me contacter. Et encore mieux, s'il y a une ferme avec un bâtiment ou une maison sur place, c'est encore mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Donc mon projet, voilà, c'est de développer ça et aussi d'intégrer la commune de Tournon-sur-Rhône, la communauté de communes Archaglo et pourquoi pas la région, la France, voilà, hein, soyons ambitieux. L'idée, c'est d'étendre la permaculture, l'agroécologie et le bien manger et prendre soin de la nature pour prendre soin de nous, quoi.
Une chose qu'on n'en a pas parlé, donc tu travailles tout seul, quelle superficie de terrain tu as et combien de légumes tu produis sur une saison par exemple ?
Donc c'est une surface qui est toute petite. L'idée d'avoir choisi une surface petite, c'est pour apprendre et expérimenter, essayer de faire le mieux possible sur une surface petite pour après faire bien sur une grande. Donc moi j'ai 1000 m2 et sur ces 1000 m2 j'ai fait à peu près 5 tonnes de légumes. Donc en gros, ça fait équivalent de 50 tonnes hectares. Les rendements en bio, c'est à peu près 30-35 tonnes hectares. Donc je suis bien au-delà des rendements bio. Je suis en fait au rendement conventionnel industriel de l'agro-industrie parce que j'utilise des méthodes un petit peu particulières, hein, maraîchage bio-intensif et bah, l'agroécologie. Et j'ai des sols qui sont très riches, très vivants, donc ça pousse beaucoup. Donc j'ai des rendements qui sont vraiment, vraiment encourageants et c'est sûr que j'arriverai à les extrapoler sur une surface plus grande. Donc c'est pour ça que j'ai envie de m'agrandir. Et je suis très content de ces rendements-là. Et en gros, il m'a fallu 2-3 ans pour arriver à avoir ces rendements-là. Pour vous donner une idée, la première année, j'ai produit 800 kg de légumes sur la même surface. L'année d'après, environ 2 tonnes. La troisième année, à peu près 4 tonnes. Et la quatrième année, 5 tonnes. Et là, je sais que je suis sur le plafond, je n'irai pas plus haut.
Ah oui, c'est quand même impressionnant, je trouve. En plus, connaissant les terres du plateau Ardéchois qui sont vraiment... ingrate à travailler, on peut le dire. Donc si jamais tu trouves un terrain plutôt en plaine, bah alors là tu vas tout cartonner quoi.
J'espère, après on n'est jamais à l'abri des surprises, mais je pense que oui, je devrais au moins arriver à faire autant sur une surface plus grande, c'est-à-dire parce qu'en fait quand on est sur une petite surface c'est facile de produire beaucoup au mètre carré, parce qu'on apporte un grand soin à chaque mètre carré. Mon objectif, c'est de faire les mêmes rendements, mais sur une surface plus grande. Toujours en bio, toujours en agroécologie, toujours en améliorant les sols et en prenant soin de la biodiversité et en augmentant la biodiversité.
Nous sommes au mois de mars, c'est le printemps, une période que j'adore. Qu'est-ce qu'on peut faire au jardin ? Est-ce que tu as quelques pistes à donner pour nos amis jardiniers et jardinières qui nous écoutent ?
Donc si vous n'avez toujours pas eu la bonne idée d'apporter de la matière organique sur ou dans votre sol, eh ben, c'est le dernier moment pour le faire. Donc vu qu'on est un petit peu avancé dans l'année, il faudrait apporter de la matière organique plutôt décomposée. Donc soit un fumier composté ou soit du broyat composté ou du compost. Voilà. Donc pour nourrir votre sol et pour pouvoir nourrir vos plantes par la suite. Et après on peut commencer à, donc on va dire plutôt dans la plaine, hein, on va dire plutôt à Tournon si vous êtes plutôt dans la plaine. Vous pouvez commencer à planter des salades, semer des radis, en fait à faire toutes les premières plantations du printemps, donc voilà, salade, radis, navets, betteraves, les pois gourmands, les petits pois, les épinards. Donc vous pouvez commencer à semer et ou planter tout ça. Donc ça fait déjà pas mal de choses à faire pour vous. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus, eh ben, il faut venir me poser des questions. Donc moi j'aime bien répondre à vos questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais déjà si vous faites ça, apportez de la matière organique relativement compostée. Commencez à semer toutes les cultures que je vous ai dit ou à les planter, vous ne serez pas trop mal.
Merci Marc Alban. On pourrait en parler pendant des heures, hein, je pense, d'agroécologie, de permaculture et de maraîchage en général. Est-ce que tu peux du coup redonner tes informations de contact pour qu'on puisse te retrouver sur les réseaux ?
Donc ça s'appelle Les Jardins de Simondon, c'est à plat. Vous pouvez trouver sur Instagram et Facebook. Et mon numéro personnel d'entreprise, c'est le 06 63 39 11 20. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. J'essaye de me rendre disponible. Si je vous ai pas répondu, c'est que j'étais très occupé, donc n'hésitez pas à me relancer.
Oui, parce que la période qui arrive, il va être beaucoup les mains dans la terre. Donc voilà, les informations de contact, donc que ce soit pour déguster les légumes de Marc Alban ou pour faire du coup le stage qui a lieu fin mars. 27 et 28 mars, voilà, n'hésitez pas. Merci Marc Alban et puis à bientôt.
Salut, à bientôt et merci beaucoup.
C'était les Éco-Ateliers, proposés par Audrey.